Il est 9h40 et l'instant M est de retour dans vos oreilles.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
C'était un livre paru chez Fayard, ce sera un film demain soir sur France 3. Comment Patrick Buisson, brillant idéologue d'extrême droite, s'est hissé dans l'ombre jusqu'au sommet de l'État pour y diffuser ses thèses et son vocabulaire. Un sujet au cœur des enjeux traités ici même dans l'Instant M. Toute sa vie, Patrick Buisson s'est servi des médias pour influencer et structurer l'opinion. Il n'a pas seulement tiré les ficelles de la scène politique, il a infiltré le cœur du quatrième pouvoir. Bonjour Arrête. Chemin.
Bonjour.
Grand reporter au monde, c'est avec votre consoeur Vanessa Schneider que vous signez. Ça m'est pas toujours qu'on puisse écrire un livre à quatre mains, mais c'est une autre discussion. Donc c'est avec votre consoeur Vanessa Schneider que vous signez livre et documentaire consacré à celui que vous qualifiez de mauvais génie.
L'Instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Alors, actu d'abord, iTélé, la chaîne info du groupe Canal+, toujours en grève. Vous le savez, le lancement de CNews, c'est la façon dont on va être rebaptisé et repositionné la chaîne, a été reporté. Pas de crainte pour l'instant, en revanche, concernant le débat des primaires de la droite, prévu sur cette antenne le 3 novembre. Il ne devrait pas être perturbé, la rédaction ayant décidé dès le départ de son mouvement qu'en cas de breaking news ou d'événement majeur, l'actu serait couverte. La soirée doit être diffusée également sur BFM TV, donc co-animée par Ruth Elkrief et Laurence Ferrari. Celle-ci, après un très long silence, a rejoint hier les manifestants réunis devant le siège d'iTélé. Les politiques, eux, n'y étaient pas, malgré les quelques déclarations éparses de Kosciusko-Morizet ou Benoît Hamon, à l'exception du sénateur PS David Assouline. Question sur l'impuissance des pouvoirs publics, dont le seul recours sera la loi Bloche récemment votée.
Cette loi disait quoi ? Elle demandait notamment qu'il y ait des chartes éthiques et des comités d'éontologie dans chaque média qui fixent un cadre. Et c'est une des revendications essentielles et principales des journalistes d'iTélé. Donc on n'a pas rien fait.
La loi Bloch qui n'a pas encore été promulguée, mais suffit-elle à éviter ce type de bras de fer entre une rédaction et son actionnaire, Dominique Pradallier, secrétaire général du syndicat des journalistes.
Ces dispositions sont éventuellement utiles dans la presse écrite qui n'aurait plus d'aide à la presse ou qui les verrait diminuer. Bolloré ne touche pas d'aide à la presse, donc il s'en fiche complètement. Il fait ce qu'il veut, où il veut. Quant à un comité d'éthique, il y en a déjà un, on sait ce que ça vaut. Ils sont composés de personnes soi-disant indépendantes, qui ne sont pas toujours des journalistes et qui ont une vision de l'éthique qui est souvent beaucoup plus proche des directions et actionnaires que des rédactions.
Alors pendant ce temps, les organisations syndicale d'iTélé ont saisi le CSA qui a ouvert une instruction sur deux points. La nature de l'émission de Jean-Marc Morandini, qualifiée de divertissement et non d'information, et le manque d'indépendance éditoriale de l'antenne. C'est le cadre réglementaire qui est visé ici, celui prévu par la convention signée par chaque chaîne en France. Pour David Assouline, la seule solution, c'est de limiter la mainmise des capitaines d'industrie sur les médias français.
Il faut maintenant remettre sur le chantier une loi que j'avais proposée en 2009 qu'il faut ajuster, qui fixe des seuils de concentration en termes capitalistiques et en termes de couverture de DIMAT, on va dire. Pour la presse papier, y compris, puisque la PQR est aussi possédée maintenant par des grands groupes qui n'en ont rien à voir, comme des banques, etc., et l'essentiel des médias privés.
Voilà, et les sons étaient recueillis lors de la manif hier par Redouane Tella. Ariane Chemin, vous êtes mon invitée donc aujourd'hui. Je l'ai dit, votre enquête, en tout cas par certains de ses aspects sur Patrick Buisson, est au cœur des sujets que nous traitons ici dans cette émission. Car très tôt dans sa vie, dès l'université, Patrick Buisson va théoriser l'idée qu'il faut infiltrer et même s'emparer des médias, donc du quatrième pouvoir. L'histoire commence à Nanterre, on n'imaginait pas forcément Patrick Buisson étudiant à Nanterre en même temps que Danny Cohn-Bendit, avec un journal qui s'appelle FacWest.
FacWest, dont l'ours, comme on l'appelle, ce petit encadré qui signale l'ensemble des directeurs, directeurs de la rédaction, contributeurs, est aujourd'hui intéressant parce qu'on y retrouve beaucoup de gens qu'on connaît. Effectivement, il commence dès Nanterre à photocopier une petite feuille étudiante et très vite, après avoir été un temps professeur dans un lycée privé d'histoire, il se dit, c'est pas comme ça qu'on réussit, ça n'est pas non plus par la politique et les élections, mais c'est par les médias. Alors, il commence évidemment dans les années 80 par un journal qui tire alors à 250 000 exemplaires, qui est le journal Minute.
Alors, avant Minute, il y a aussi cette revue Item. Et elle est intéressante parce que le principe de votre film, c'est que vous faites raconter cette histoire par les gens de l'extrême droite et de la droite, pas par des observateurs extérieurs.
On s'est dit que si on la faisait raconter par la gauche ou des politiques de gauche, ils se seraient pincé le nez en disant Berck, ça n'avait pas l'intérêt. On voulait la faire raconter par des très proches qui avaient vécu cette aventure. Et quand vous avez dit effectivement prendre possession des médias, je me souviens de l'expression d'Éric Zemmour qui dit au fond, moi j'ai toujours pratiqué l'entrisme de droite. C'était un mot qu'on croyait réservé à l'extrême gauche. L'entrisme, bien Patrick Buisson, il fait de l'entrisme dans les médias.
Et Bruno Maigret fait remarquer assez justement qu'il y a toute une reconquête idéologique et culturelle à mener après 68. Et c'est là que Patrick Buisson commence à travailler dans cette revue Item, c'est-à-dire qu'il faut mettre en forme des mots et des idées.
C'est là qu'il théorise dans cette petite revue, à vrai dire, qui connaîtra un sort assez éphémère, mais où se retrouvent toutes les grandes figures de la droite littéraire et de l'extrême droite. Il théorise effectivement cet entrisme de droite, même s'il n'utilise pas le nom. Et il se dit, au fond, j'aurais plus d'influence de cette manière qu'en faisant de la politique. Et par ailleurs, il a toujours été un adepte à droite de la pensée d'un monsieur qu'on appelle Antonio Gramsci, qui était un idéologue communiste italien et philosophe, et qui disait au fond, le pouvoir il se prend par la culture. Et ça, il l'a toujours pensé. Il pense que c'est la domination culturelle qui précède la domination politique. Et il a toujours dit d'ailleurs à Nicolas Sarkozy plus tard, quand il sera son conseiller, ne fais pas campagne sur le chômage, fais campagne sur la culture, les idées, l'histoire.
C'est ça, on sort l'économie du champ du discours politique pour passer à autre chose. Alors, et ensuite, il va intégrer Minute. Il faut quand même qu'on rappelle que Minute, c'était 250 000 exemplaires. Hein, l'hebdo le plus attaqué de France, comme il se présentait lui-même. On écoute Patrick Buisson, la façon dont il en parlait lui-même à l'époque.
Un des grands privilèges que d'être journaliste à Minute, c'est, je crois que je n'ai jamais été victime du moindre acte de censure.
Il y a cette ambivalence dans le comportement de la classe politique. Tantôt ils ont besoin de nous et tantôt ils affectent de ne pas nous connaître.
Et on retrouve dans la façon dont Patrick Buisson va piloter la ligne éditoriale de Minute, toutes ces obsessions. Racontez-vous dans le documentaire, Ariel
Chemin. Oui, alors toutes ces obsessions, on les voit dans les unes, un nombre d'unes récurrentes sur les juifs qui est aujourd'hui assez fascinante, on se dit on n'oserait plus. Un nombre de unes incroyables aussi sur...
Alors sur les juifs, vous vous arrêtez parce que vous interrogez des personnalités d'extrême droite qui vous disent c'est pas si clair que ça. Et puis avec les critères d'aujourd'hui, donc manifestement les critères de l'époque et les critères d'aujourd'hui pour qualifier l'antisémitisme ne sont pas les mêmes à leurs yeux, sauf que vous, vous pointez dans la photo de famille de Minute des négationnistes avérés.
Avérés, c'est quand même pas banal, et on est en 86, il est directeur, nouveau directeur de la rédaction. Et l'ensemble de la rédaction pose autour de Patrick Buisson un portrait du maréchal Pétain, au milieu des années 80 quand même, on peut estimer que c'est une drôle d'idée, et effectivement, on l'a recensé, les personnes qui étaient là sur cette photo, il y a des maréchalistes convaincus, mais pas seulement, il y a des vrais fascistes, il y a des négationnistes. Et tout ça pose autour de ce portrait de Pétain.
Alors, il n'y a pas que les Juifs dans les Unes de Minute à l'époque. Il y a déjà cet anti-européanisme vraiment extrêmement virulent. Les francs-macs, les syndiqués, les assistés...
Les Arabes.
Les Arabes, etc. En fait, tout ça, on va le retrouver dans le journal qu'il dirigera après. On va le retrouver dans Valeurs Actuelles.
C'est vrai que
c'est le laboratoire.
En regardant les Unes de Minute, il y a beaucoup de gens qui nous disent que ça ressemble aux Unes de Valeurs Actuelles aujourd'hui. Effectivement, il va passer d'abord de Minute, qui est un journal qui a 250 000 exemplaires, mais qui va vite un peu s'étioler. Il passe à Valeurs Actuelles, où là, il met en application sa pratique des sondages. Mais c'est vrai que c'est une progression assez logique. Il va vers le plus grand nombre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après Valeurs Actuelles, évidemment, il se dit le média de masse, c'est quoi ? Et logiquement, il ira à la télévision.
Il ira à la télévision. Ce qui est, on va quand même préciser pourquoi est-ce qu'il s'est fait virer de Minute, parce que là aussi il y a une histoire dans l'histoire et là aussi il y a un laboratoire d'une crise et qui a explosé beaucoup plus tard.
Il y a une grosse crise, alors comme souvent dans les milieux d'extrême droite, il y a toujours des querelles de pouvoir incroyables qui se doublent d'une sorte de parano, de schizophrénie, etc. Et un jour le directeur de Minute qui est arrivé là, qui n'est pas du tout d'extrême droite, on lui dit est-ce que c'est une manipulation ou pas ? On lui dit regarde, vous avez des micros partout, il dévisse son téléphone, il va sous le bureau, effectivement il y a des micros. Et la querelle prend de l'ampleur. Et ce qui est intéressant dans cette crise, dont nous avons retrouvé des images d'archives, c'est qu'au fond, Patrick Buisson va être viré de Minute, effectivement, mais surtout...
Déjà pour un scandale d'écoute.
Déjà pour un scandale d'écoute, donc si on s'était quand même un peu renseigné sur son passé, je pense que ça aurait évité bien des convenus. Et surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'il se pose en victime avec quasiment les mêmes mots que ceux qu'il a aujourd'hui pour se défendre d'avoir enregistré Nicolas
Sarkozy.
Alors,
à l'époque de Minute, il s'est rapproché de Jean-Marie Le Pen. Alors, c'est intéressant, Ariane Chemin, la façon dont vous analysez le Patrick Buisson faiseur de roi. Parce qu'il aura trois hommes politiques dont il a été à la fois la conscience et le stratège dans sa vie. Jean-Marie Le Pen d'abord, Philippe de Villiers ensuite, Nicolas Sarkozy, on le sait. Et à chaque fois, c'est un faiseur de roi. Et pour faire des rois, on utilise les médias. Jean-Marie Le Pen d'abord, en fait, il fabrique du matériel médiatique, comme il va le faire pour Philippe de Villiers. Il fabrique des films, il fabrique des revues, il fabrique des journaux.
C'est vrai qu'à chaque fois, le dispositif est à peu près le même. Il repère quelqu'un d'intelligent, de charismatique, de fort en gueule. Et la première fois, effectivement, c'est Jean-Marie Le Pen. Et à chaque fois, il met effectivement tout un attirail de publications à leur disposition. Alors, ça peut être un film, effectivement. Il y a un film qui s'appelle Le Pen sur le front qu'a réalisé Patrick Buisson. Malheureusement, il a bloqué les archives pour nous. Nous n'avons pas pu avoir accès, enfin, en tout cas, utiliser les images
de ce
film.
Puis il y a ce journal de campagne qu'il fait fabriquer pour Philippe de Villiers.
Pareil, il fait fabriquer pour Philippe de Villiers.
À 28 millions d'exemplaires.
Et alors en plus, on sait maintenant depuis trois semaines que l'imprimeur, à la fois du matériel de Jean-Marie Le Pen, de Philippe de Villiers, puis plus tard de la campagne de Nicolas Sarkozy, c'est le même imprimeur, Gilbert Caron. Et à chaque fois, évidemment, Patrick Buisson prend sa commission, 300 000 euros pour la campagne de 2007 pour Nicolas Sarkozy, et la même chose en 2012.
C'est ça. Alors comme vous dites, il va bientôt changer de dimension. C'est-à-dire que, en même temps, d'ailleurs qu'il va changer de dimension politique, il va changer de dimension médiatique. Et là, la bascule se fait avec la chaîne d'info et son entrée dans la chaîne LCI. On va juste l'écouter sur l'antenne d'LCI. C'est David Pujadas, à l'époque, qui lance l'émission qui s'appelle Le Club de l'Opinion.
Le procès de l'année, c'est le procès Papon. Sert-il à juger un homme ou sert-il à juger Vichy?
Quand on regarde les enquêtes de CSA, notamment celles faites pour Tribune Juive, on voit bien que plus on est âgé, plus on a été témoin ou spectateur de ces événements, plus on pense, plus on est enclin à, sinon à l'indulgence, du moins à la banalisation.
Alors, comment Patrick Buisson a-t-il réussi à pénétrer LCI, Ariane Chemin?
Avec un très très bon concept d'émission. C'était une excellente émission, Public Opinion. C'est-à-dire qu'il a en fait, c'est le premier qui, au lieu d'inviter des politiques, a choisi d'inviter des sondeurs. En tout cas, il les a mélangés avec des politiques. Et tous les sondeurs qui ont la difficulté souvent à se faire connaître, en tout cas au milieu des années 90, venaient avec plaisir, commentaient les mouvements d'opinion. Lui-même, Patrick Buisson, il n'est pas arrivé aussi haut par hasard. C'est un homme à la fois très cultivé, il a une culture de l'histoire électorale française formidable, il connaît très très bien les mouvements d'opinion, c'est un analyste très fin, et il faisait venir dans cette émission très regardée l'ensemble de la confrérie des sondeurs qu'il mêlait à des politiques.
Et là aussi, il s'était d'abord servi de la création de son propre média pour y arriver. Il avait créé son propre journal,
une petite lettre,
une sorte de petit journal réservé aux professionnels sur le secteur et le marché des sondages. C'est à travers LCI qu'il va nouer des liens, qu'il va d'abord faire connaissance, puis nouer des liens avec Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire qu'on voit bien comment il s'élève à la fois dans la sphère politique et médiatique de manière parallèle et évidemment totalement imbriquée. Là aussi, il va devenir son conseil et son stratège. Oui.
À vrai dire, la télévision l'a rendu respectable. C'est-à-dire qu'il avait le côté encore un peu sulfureux de la presse d'extrême droite, Valeurs Actuelles non, mais et la télévision tout d'un coup le rend à la fois, lui donne une image médiatique, il devient quelqu'un, et puis la télévision le blanchit d'une certaine manière.
Alors la télévision le blanchit, puis alors on arrive à des situations complètement absurdes, c'est-à-dire que d'un côté il est là en train de dicter ses discours de campagne à Nicolas Sarkozy, en tout cas ses axes stratégiques, et puis de l'autre il commente la victoire de son poulain sur LCI sans aucun scrupule.
Oui,
enfin, ça n'a pas l'air de déranger non plus Jean-Claude Dacier que vous interviewez, qui était le patron d'LCI à l'époque.
Oui, et alors c'est intéressant parce que ce film, comme c'était un personnage qui ne veut pas se montrer, le réalisateur Tancrède Ramonet et l'archiviste excellent excellente Marie Baudouin, ils ont réussi à construire ce personnage invisible grâce aux archives. Et cette soirée électorale de 2007, dont on sait aujourd'hui, mais personne ne le disait ni le savait à l'époque, qu'elle a été entièrement fabriquée par Patrick Buisson. Eh bien, cette campagne électorale, il la commente sur le plateau, sans aucune vergogne, sur le plateau de LCI. D'ailleurs, il y a un autre épisode très amusant, c'est qu'il a à côté de lui Olivier Duhamel, qui lui a conseillé Ségolène Royal. Donc, on est dans un complet mélange des genres.
Dans un complet mélange des genres. Alors là, c'est pour le coup totalement avéré aujourd'hui, puisque les écoutes de Patrick Buisson l'ont révélé. Patrick Buisson, conseiller de Nicolas Sarkozy, dicte ses unes à l'époque à Étienne Moujotte, le patron du Figaro. C'est dit dans votre documentaire qu'il surnomme son chien couchant.
Oui, alors ce sont les enregistrements, plus exactement, plutôt que des écoutes.
Oui, bien sûr.
Les enregistrements, donc le petit téléphone dans la poche de Patrick Buisson, qui ne se contentait pas d'enregistrer les réunions à l'Élysée, mais aussi des conversations dans la voiture. L'enregistreur était toujours allumé. Donc on a effectivement, quand il, par exemple, il appelle Étienne Moujotte, qui était à l'époque au Figaro, pour lui dire voilà ce qu'il va dire, voilà l'idée, voilà ce qu'il va dire ce soir. Effectivement, c'est une journaliste de chez nous, Emeline Kazi, qui avait mis à côté les unes du Figaro et l'enregistrement qui précédait, et c'est vrai que c'est fascinant parce qu'il donne ses ordres, il dicte ses unes.
Où est Étienne Moujotte aujourd'hui, Ariane Chemin ?
À Valeurs Actuelles.
À Valeurs Actuelles, ils sont encore en lien, à votre avis ?
Valeurs Actuelles, ça a toujours été une sorte de pépinière, voilà, où Patrick Buisson avait placé beaucoup de personnes. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, la Sarkozy est moins bien représentée. La meilleure preuve, c'est que Camille Pascal, qui a été vraiment un très très proche de Patrick Buisson, qui avait négocié via Patrick Buisson une tribune avec sa photo en pied, a disparu depuis quelques semaines de Valeurs Actuelles, des pages de Valeurs Actuelles.
Alors l'actuel directeur du Figaro s'appelle Alexis Brézé. Il n'est pas mentionné dans le film, mais il est mentionné dans votre livre. Là aussi, c'est quand même la même école. C'est l'école Patrick Buisson.
C'est l'école Valeurs Actuelles. C'est-à-dire que Alexis Brézé, il a côtoyé, il a beaucoup appris avec Patrick Buisson. Ils ont gardé des liens, ils se sont parlé longtemps. Et puis on sent, c'est une droite, ce sont deux droites qui se ressemblent. Une droite catholique, identitaire. C'est la même inspiration, effectivement. Et ils se sont vus et ils se connaissent très bien. Et on retrouve souvent, je trouve, dans les éditos d'Alexis Brézé, je pensais à celui qui a suivi les attentats de Nice, où il parlait d'un nécessaire réarmement moral, on trouve des thématiques qui sont très buissonniennes, même s'ils ne se parlent pas tous les jours.
Alors, il y a l'histoire LCI, il y a l'histoire d'une autre chaîne au sein du groupe TF1 qui s'appelle la chaîne Histoire. Alors là, il est devenu plus que respectable puisque maintenant, il est patron de chaîne, Patrick Buisson.
Oui, parce qu'après la victoire de 2007, Nicolas Sarkozy lui dit, c'est dans un salon d'un grand hôtel parisien, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux un bureau à l'Élysée ? Et il dit pas du tout. Et il dit, moi, je voudrais la chaîne Histoire. Parce qu'il sait, en bon gramsciste qu'il est, que c'est par l'histoire qu'on tient souvent les idées. Et il se trouve que ça tombe bien, la chaîne Histoire appartient au groupe TF1, Martin Bouygues, Amine Nicolas Sarkozy, donc il obtient la direction de la chaîne Histoire, où il a été reconduit très récemment, et sur laquelle il règne.
Alors là aussi, la Vendée, l'Algérie version OAS, l'occupation façon Buisson, c'est toutes ces obsessions qu'on
c'est
y retrouve.
Toutes ces obsessions, et l'Algérie ça me frappe parce que dans le dernier livre de Patrick Buisson, il y a un chapitre qui s'appelle « La guerre d'Algérie n'est pas finie », mais si on regarde comment on parle de la guerre d'Algérie, par exemple un historien comme Benjamin Stora n'a jamais été invité, alors que c'est le meilleur connaisseur de la guerre d'Algérie, il y a des tropismes évidents.
Merci beaucoup, Ariane Chemin. Donc votre film est diffusé demain soir à 23h30. Il s'appelle, comme votre livre, Le Mauvais Génie. C'est la fin de l'instant même. Bonjour Ali Rebeilly.
Bonjour Sana De Villers. Ça n'intéresse personne, mais j'adore Ariane Chemin.
Voilà. Gentil, ça
c'est dit.
Très gentil. Et voilà, elle est toute rouge, notre invitée. On dirait qu'elle est rouge comme un logo France Inter.
Exactement.
Alors, combien vous passe aujourd'hui ?
Parents, ados, grosses crises et petits conflits.
Et ben ça,
tout.
Ça intéresse tout le
voilà,
monde.
01 45 24 7000.